question est toujours la même. Qu'est-ce qu'apporte de neuf le discours analytique? Plusieurs fois, nous avons posé cette question et à nouveau, je voudrais repartir à partir de là, dans la mesure où la psychanalyse est-elle une science ou pas? Ça, c'est une question, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit une science? Ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est un enseignement ou pas? Ça veut dire qu'il faut un peu abattre les cartes qu'on a dans son jeu. C'est-à-dire qu'habituellement, on peut dire que quand chacun d'entre nous parle, de quoi que ce soit d'ailleurs, mais si on parle de la psychanalyse par exemple, on peut se poser la question qui est la remarque de Descartes le 1er janvier 1619 à son maître Beckmann. C'est comme ça que j'avais commencé la conférence à l'UNESCO en novembre, à l'UNESCO à Paris en novembre. Sur le point de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué. Larvatus prodeo. Est-ce que, habituellement, je ne m'avance pas toujours masqué? Et peut-être d'autant plus que je pense que, justement, je ne suis pas masqué. Alors, vous voyez que, en formulant déjà la question comme ça, il y a la question de la pensée, je pense, et que ça pose la question, à nouveau, de ce qu'est le penser, et de savoir si le penser est adéquat, est équivalent à la pensée. Il est difficile de concevoir que ça ne soit pas adéquat. Et pourtant, ce que montre l'expérience du transfert, et dans une configuration qui est celle du discours analytique, parce que des expériences du transfert, il y en a en permanence, hein. Mais là, dans cette expérience codifiée qui est celle du discours analytique, le neuf, parce qu'il y a neuf, c'est que il ne s'agit pas, en fait, d'accéder à un savoir qu'on ne connaît pas, tout montre que, et c'est ça que ça veut dire l'inconscient, tout montre que chaque homme sait déjà tout ce qu'il a à savoir. Ça ne veut pas dire qu'il le pense. Ça ne veut pas dire qu'il le pense. Donc, il y a cette donnée-là. On sait déjà. Mais on ne sait pas qu'on sait. Mais ça ne suffit pas à parler de l'inconscient. Ce qui est en jeu, ce qui peut justement introduire cette dimension du nouveau, du neuf, c'est le fait que ce savoir est limité parfaitement à une jouissance insuffisante, que consiste, qui lui parle. Alors, tout ça, je n'ai pas parlé de sens. Autrement dit, alors on est parti un jour de la question du sens. Autrement dit, il y a, dès que l'on parle, et là on retourne autrement ce qu'a dit Marx, une valeur d'usage, ce qui compte, ce n'est pas la valeur d'échange, c'est la valeur d'usage, qui consiste à parler pour user le sens connu des mots, et d'autant plus que à ce sens est accroché quelque chose qui est ce qu'on appelle un insaisissable réel. Et s'il y a usé ce sens, c'est parce que, ça c'est une découverte de la psychanalyse, enfin j'insiste, je reviens, c'est une découverte du discours analytique. Hein, la psychanalyse c'est l'expérience, mais alors comme toute expérience, ça dépend des personnes qui font l'expérience. La découverte du discours analytique, c'est que le sens, la fonction du sens, la fonction d'usage du sens, et là, de la valeur parce que, mais ça se savait déjà avant la psychanalyse, parce que le sens habituellement reflète le sexuel, au sens habituel du terme. Vous connaissez ça par exemple, vous avez trouvé dans les symboles, si vous rêvez d'un parapluie, c'est un phallus. Voilà, ça veut dire. Bon, ça ne va pas bien loin. Donc, le sens révèle, reflète le sexuel, mais en fait, il reflète le sexuel parce qu'il se substitue au sexuel qui manque. Voilà, ça devient compliqué. Il reflète le sexuel, et ceci n'a qu'une valeur d'usage, c'est-à-dire qu'il faut pousser les bons mots, les bons vieux mots, jusqu'au bout. Parce que ce qui est en jeu, c'est que le sens est substitué, le sens sexuel est substitué au sexuel qui manque. Et c'est alors, dans cette perspective-là, du sexuel qui manque, qu'on peut aborder la dimension du sens, comme le dit la langue, en tant que jouissance. À écrire en deux mots, J-O-U-I-E-sens ou J-O-U-I-S-E-N-S, en laissant tout ce qui est ouvert par cette porte-là, sans du tout vouloir la fermer. C'est-à-dire qu'on entend bien qu'il s'agit d'ouïr quelque chose, mais que ça n'est pas l'ouïr habituel, puisque d'une certaine façon, le paradoxe, c'est que ça s'ouïe dans le silence. Donc, l'important, vous voyez, c'est que si on parle dans cette expérience codifiée, qui est celle du discours analytique, c'est parce que, on ne peut même pas dire qu'il est supposé, il n'y a pas de supposition. C'est parce que le discours analytique repose, en fait, la nouveauté, c'est que il y a, c'est ça la dimension du hors d'eux et du froid, il y a un champ du savoir, qui est ce que Lacan appelait le champ de l'autre, autre grand A, et que ce champ de l'autre est celui où sont posés les signifiants. Les signifiants, pas les signifiés. Et le signifiant, ça s'entend. Oui, il y a déjà une certaine cohérence qui se met à fonctionner du côté d'entendre quelque chose. Et de ce champ particulier qui est celui de la jouissance. et on est si peu enclin à aller dans cette direction-là que jusqu'à la découverte de Freud, qui lui aussi a pataugé dans cette dimension-là, il est venu buter sur une question qui est que veut la femme, et il n'a pas pu avancer au-delà de ça. Et c'est Lacan qui a transmis le dire qu'il y a dans cette question-là, à partir de son expérience, à partir de ses nombreuses lectures, notamment philosophiques, où ça n'existait pas, justement ça, en disant bien qu'il faut se méfier du discours philosophique. C'est pas du tout que les philosophes soient méchants, soit pas du tout. C'est seulement que c'est un autre type de discours, et que la conscience n'a rien à voir avec ça. Et dire discours philosophique, c'est rentrer dans, en général, dans ce qu'on appelle le discours universitaire, c'est-à-dire dans ce que Lacan appelait l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on explique ce que j'essaie de faire aussi là. Et il y a tout intérêt à ce qu'il y ait des impasses pour vous dans ce que j'explique. Sinon, ça voudrait dire que c'est complètement raté. Et chacun entend à sa façon le moment où pour lui c'est une impasse. C'est ça l'intérêt. C'est ça la dimension du réel. Donc, vous voyez qu'on s'avance là dans une perspective où le sens, effectivement, le but du sens, le but de la signification, c'est que ça tombe. C'est pas que ça continue à tourner en rond. C'est que ça tombe. Et c'est dans cette perspective-là, j'y reviens à nouveau, qu'on peut dire qu'il est possible de dire, mais c'est une possibilité qui ne va pas de soi, qui n'est pas à la portée de tout le monde, et pourtant, pourquoi pas, dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde, ça veut dire que ce n'est pas dans le tout que ça se joue. Dans la dimension de la totalité du savoir comme totalité, nous sommes dans un univers, on peut l'appeler symbolique, hein, pourquoi pas imaginaire, symbolique, réel, nous sommes dans un univers où il y aurait du sens pour tout. Or, l'important, c'est le moment où le sens défaille. Autrement dit, et je continue, le sens du savoir, c'est la jouissance. Mais bien sûr, il ne faut pas partir sur le sens habituel du mot jouissance. Alors que nous avons été amenés à penser, voilà le penseur, à penser que le sens, c'était quelque chose qui gardait un secret quelque part et qu'il fallait le découvrir. Ça n'est pas faux, mais ça, c'est tout ce qu'on appelle la dimension du fantasme. Pas au sens habituel du terme. C'est pousser la réalité du côté du fantasme. Bon, je vais un petit peu dire quelque chose peut-être un peu plus simple maintenant. Par exemple, on pourrait prendre des références philosophiques, mais pour que ça soit un petit peu plus évident, hein. Prenons ce qui fait lien, ce qui relie, la religion. Comment se lit ce qui relie, ça s'appelle la religion. Par exemple, le christianisme. Alors, habituellement, souvent, la façon dont on explique l'apparition du christianisme, c'est de partir, par exemple, du judaïsme et dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui a basculé autrement. Et souvent, notamment un des passeurs, qui est Paul de Tarse, qui est donc saint Paul, est considéré quand même comme un traître au judaïsme. C'est lui qui a en quelque sorte permis, d'une part il s'est converti lui, puis alors il a beaucoup œuvré pour les conversions. Pourquoi pas? Il est possible, et alors là ça change tout, vous allez voir, il est possible de partir d'autres choses. Comme dans l'histoire analytique. C'est-à-dire qu'il est possible qu'en lisant, par exemple, ce qu'on a finalement, on a quoi ? On a des évangiles. C'est essentiellement ça qu'on a. C'est-à-dire quelque chose qui traduit le fait qu'une parole a été dite à un certain moment, avant qu'il soit écrit. Eh bien, si vous prenez certains moments des évangiles, eh bien, suivant que vous allez être arrêté par tel ou tel moment, tel ou tel, je n'ose même pas dire sens, tel ou tel quelque chose qui vous arrête, tout d'un coup, vous dites, tiens, j'ai jamais trouvé ça quand j'ai lu ça. Eh bien, chacun d'entre vous va pouvoir être arrêté par quelque chose de différent. Ce qui est logique. C'est ça qui se passe dans le transfert. C'est surtout pas le tout, l'universel, le savoir qui vaut pour tout. Hein? L'explication, l'imaginaire, en quelque sorte. Par exemple, articuler le christianisme au judaïsme, comme c'est fait habituellement, quel que soit ce qu'il le fasse, ça pose la question de savoir si on considère véritablement le christianisme. Si on ne considère pas le christianisme comme quelque chose qui serait, alors suivant qu'on est d'un côté ou de l'autre, du fait que ça vient dans la suite du judaïsme, et là où il y a apparaître un monstre, ben c'est la psychogénèse, quoi. Hein? L'enfant se développe avec des stades, puis avec des stades, on explique tout. On explique strictement rien. On explique tout, c'est-à-dire qu'on n'explique rien. Alors, comment pourrait-on parler du christianisme autrement, sinon, ben, à partir de certaines choses, qu'est-ce que c'est que le Christ ? La question, c'est pas de savoir véritablement quand il a existé, s'il a existé, comment il a existé, comment il était. Pourquoi pas ? Mais c'est la parole, c'est-à-dire la logique, une logique qui peut être, qu'on peut retrouver dans ces écrits, que sont les écritures saintes, justement. Et on peut, par exemple, être arrêté par la chose suivante, hein, c'est que, à un certain moment, bon, vous savez, toutes sortes de choses, le Christ aurait dit, pour ceux qui se tracassent comme ça, c'est le moment, là, on est en pleine crise, là, de ce qui va leur arriver. Hein. Regardez les listes des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, le royaume des cieux est à eux. On peut prendre ça pour un déconnage complet. C'est complètement débile, mais ils sont fous. Hein. Mais si on prend les mots, si on essaie de comprendre ce que ça veut dire tisser, filer, on s'en rend compte qu'il y a un travail. C'était, il parle d'un travail. Et finalement, d'un travail de texte. C'est ça qui se passe dans le transfert. Il s'agit d'élaborer un travail de texte. Avec des mots. C'est ça la valeur d'usage. Et puis, c'est d'une certaine façon, il parle de la dimension de l'inconscient. Évidemment, sans le nommer. Mais en même temps, il élimine l'inconscient. Parce que tout ça, évidemment, c'est le Père qui règle toute cette question-là. C'est pas celui qui parle. Oui, qu'on peut déjà trouver dans des quelque chose comme ça, dans les Écritures. Et puis alors, ce qu'on peut, après, évidemment, on peut se poser la question, on l'a déjà fait, qu'est-ce que c'est que le vrai de la Trinité ? Ce trois-là, ce Dieu qui est trois. Et puis alors, si on regarde après ce qui s'est passé dans l'histoire, si on n'est pas uniquement fixé parce que c'est quelque chose qui nous intéresse finalement, exemple par les guerres de religion, par tous ces trucs assez extraordinaires qui ont eu lieu, au nom du christianisme, c'est vrai. Eh bien, on peut être un jour arrêté parce qu'on peut se demander pourquoi on va à Rome, par exemple. Freud a eu beaucoup de mal, il s'y est repris à cheveux. Plusieurs fois, il n'arrivait pas à aller à Rome. Mais il ne sait pas pourquoi il n'arrivait pas à aller à Rome. Alors il a trouvé des explications. Pourquoi pas? On peut penser que ce qui nous conduit à Rome, c'est quoi? C'est toute cette jouissance de ces corps qui sont pendus là, dans ces tableaux, au moment de la contre-réforme, le baroque. C'est pour voir ça. C'est ça, Rome. Pourquoi on peut dire que c'est peut-être pas ça? Mais c'est ça le christianisme. Est-ce que le christianisme, ce serait pas ça? C'est une vraie question. Vous voyez que là, on n'est plus du tout dans le fait de savoir si on a la foi, si on n'a pas la foi, etc. La vérité, on pourrait dire, révélée, la révélation. Parce que quand même, ce qui est important en ce qui concerne le Christ, c'est pas qu'il a une âme. C'est qu'il a un corps. S'il n'avait pas de corps, il n'y aurait pas de mort et de résurrection. Autrement dit, d'emblée, la question du corps, et d'une certaine façon, dès qu'on aborde la question du corps, du rapport à la jouissance, est posée à ceci près que, eh bien, ce qui est rapté, on pourrait dire, aux chrétiens, c'est la dimension du sexuel. Pas spécialement, bien sûr, il y a ce qu'on appelle habituellement les rapports sexuels. C'est-à-dire que les rapports sexuels ne pourraient pas conduire à autre chose qu'à reproduction. Pas de plaisir, ça c'est des... Ça pourquoi pas, mais c'est déjà très simple. Puis en plus, on sait très bien que c'est pas du tout ça. Même ceux qui seraient dans la religiosité du christianisme, ils n'arrêtent pas, s'ils le peuvent, puisque la jouissance sexuelle en question, c'est pas un truc qu'on trouve comme ça, s'ils le peuvent, ils transgressent en permanence. Donc vous voyez bien que ce qui compte, c'est plutôt ce qui est au cœur du christianisme. Qu'est-ce qui est au cœur du christianisme? En fait, eh bien c'est le fait que, alors là je vais vous faire bondir, parce que ça semble contradictoire à ce que je viens de dire, ce que ne prend pas en compte le christianisme, mais aussi les autres religions, mais aussi les discours habituels, c'est qu'en fait, il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà. Le christianisme ne prend pas en compte ça, le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, on ne va pas rajouter, sauf pour la reproduction, parce qu'on ne parle plus des mêmes choses. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'on entend par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le rapport sexuel? Parce qu'il faut dégager le sexuel du génital, premièrement, et ça nous ramène à la question de qu'est-ce que c'est que l'être sexué, donc qu'est-ce que c'est que celui qu'on appelle l'homme, et cette espèce d'être parlant qu'on va être amené à appeler, non pas la femme. Parce que si on met l'homme et la femme, ça veut dire qu'il y a un rapport sexuel, on les appelle pareil. C'est deux articles définis. Le, là. Donc ça marche, il y a un rapport sexuel. La langue là-dessus, c'est... On peut se dire, mais de toute façon, si on met le et la, il y a un rapport sexuel, inévitablement. Au sens de la logique, d'une certaine logique. On va dire, il y a l'homme et il y a une femme. Il y a article défini et article indéfini. Vous voyez que la langue a tout prévu, il y a un savoir dans la langue qui fonctionne. Alors, ce que ne prend pas en compte le christianisme, mais on ne va pas lui reprocher, ça nous permet d'avancer justement. Est-ce que ça, et là où saint Paul s'arrête, c'est quand il met d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Les, c'est-à-dire que ça suppose... Dans cette pensée-là, c'est la pensée, qu'il y a un rapport sexuel, évidemment. Puisqu'on met d'un côté les uns, de l'autre côté les autres. Mais dès qu'on introduit quelque chose qui est la prise en compte du langage, Et c'est ça là, la vérité qui soutient le discours analytique. Alors, on peut un peu avancer sur cette histoire de rapport sexuel qui n'existe pas. Ça n'empêche pas de baiser, hein, comme on peut. Mais qu'est-ce que c'est que ce rapport sexuel qui n'existe pas? Parce que s'il y avait un rapport sexuel qui existe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'altérité. Ça veut dire que, et ça peut se considérer seulement à partir de la jouissance. J'insiste, ce n'est pas le plaisir, la jouissance. Ce n'est pas un hédonisme comme ça, etc. Ce que montre l'expérience du discours analytique, c'est le fait qu'il y a, alors, pour bien ouvrir ses oreilles, parce que c'est, il y a ce qu'on appelle la jouissance de l'autre, grand A, du corps de l'autre. C'est pas du tout de l'anatomie, là. C'est pas le corps, vous voyez, je fais un lapsus, c'est pas le corps au sens de l'anatomie, hein. Il y a ce que l'on appelle, ce que Lacan a nommé la jouissance de l'autre. L'autre, c'est ce lieu particulier où ce qui compte, c'est pas le sens, c'est le trou dans le sens, hein. Grand S de grand tabaret, grand tabaret. Il y a un lieu qui est celui de la jouissance de l'autre, du corps de l'autre, et nous en sommes à jamais séparés. À jamais, on n'a jamais accès à la jouissance de l'autre. Voilà. Autrement dit, l'autre, l'autre absolu, c'est quoi? C'est l'autre sexe. Et donc, il ne peut pas y avoir de rapport sexuel. On en a raconté là-dessus, à partir du moment où Lacan a parlé de ça, à des années, notamment dans les années 70, 71, 72, 73, 74. Hein. Autrement dit, c'est parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel qu'il est possible que ce que l'on appelle un peu rapidement la dimension de la création, il faudrait prendre la Genèse comme ça aussi. Hein? L'histoire d'Adam, la côte, d'Ève, etc. Tout ça, il faudrait reprendre ça. Hein? Autrement, pour tout ce qu'on nous a... ce dont on nous a rabattu les oreilles. Eh bien, il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut donc dire que qu'on soit, en ce qui concerne l'état civil, côté homme ou côté femme, nous sommes radicalement séparés de l'autre sexe. Qu'est-ce que l'autre sexe? Voilà la question. On ne peut pas en dire grand-chose, hein, puisqu'on en est séparés. On est séparés notamment de la jouissance de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire, passer du temps et du temps à parler? Puisque moi, si je viens parler, je pensais que c'est que j'avais trouvé, je ne sais pas quel secret de ta famille qui était caché. Pourquoi pas? Et alors, ce n'est pas pour autant que quelque chose a changé. Eh bien, il y a dans le parler une jouissance. C'est ça qui est en jeu dans le discours analytique. Et je rajouterai, ça c'est ce que dit Lacan, Charmoille rajoute, il y a dans le chanter une jouissance. Voilà ce que dit Charmoille. Ah, ah, en prolongeant Lacan. Je crois que Lacan l'aurait dit s'il avait été dans le... Il le dit d'ailleurs à un moment dans le séminaire encore. Vous savez bien qu'un jour j'essaie d'aborder la question, hein, comme ça, de la musique. Mais il ne l'a jamais abordée. Enfin, à ma connaissance. Je crois que si on se met à avoir un jour ou l'autre, on se met à chanter, quelque chose, ces possibilités, c'est pour s'approcher de ça. Mais nous en sommes séparés. Alors, qu'est-ce qu'on va foutre à l'opéra? Qu'est-ce qui fait qu'on chante? Nous en sommes séparés, et pourtant, enfin, nous en sommes séparés, on va prendre des formules, on en a déjà parlé, c'est-à-dire ceux qui ne cessent pas de s'écrire, c'est toutes les histoires habituelles pour expliquer ceci, cela, et on aime ça, hein, Pourquoi on aime ça? Parce que ça vient recouvrir le fait que justement, il est impossible. Il y a un impossible qui est cette inexistence du rapport sexuel, mais c'est recouvert. C'est-à-dire que tout ce qu'on raconte sur ceci, sur cela, ça permet de penser qu'il y a le rapport sexuel. J'en ai parlé à partir du christianisme, par exemple. Mais, du fait de cet autre radical, j'insiste bien, c'est la dimension des signifiants. Le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. Ça ne représente pas quelque chose pour quelqu'un. Ça, c'est le signe. La dimension des signifiants, c'est quelque chose qui s'entend. Ce n'est pas quelque chose qui se lit à partir de ce qu'on entend. Ça, c'est le signifié. Le signifiant, le champ des signifiants, nous introduit directement la dimension du jouir. Et dans le jouir, nous avons chacun un mode particulier du jouir, qui n'arrête pas d'ailleurs de nous faire répéter toujours les mêmes choses. C'est une façon de parler de la répétition et de prolonger Freud. Dans le jouir, le savoir, on revient à la dimension du savoir, le savoir se renouvelle à chaque expérience de son acquisition. C'est quasiment impensable ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une première fois, puis après les autres fois, c'est plus la première fois, c'est l'importance de la première fois. Ça veut dire que c'est toujours une première fois dans le jouir. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on est en direction de cet autre radical. Alors là, puisqu'on n'a pas accès à la jouissance de l'autre, comment peut-il être possible qu'on soit un petit peu mis dans cette direction-là? C'est là que il faut différencier avec Lacan ce qu'il appelait la jouissance phallique, c'est-à-dire, pour parler rapidement, tout ce qui concerne la dimension de la signification, du sens, c'est-à-dire ce qu'on appelle la signification phallique. Et puis, cette jouissance phallique, elle n'est pas du tout articulée à cette dimension de l'autre. Pas du tout. Et puis il y a ce qui est articulé à cette dimension de l'autre, on pourrait dire ce qui peut l'entendre, c'est-à-dire ce qui n'est pas tout dans la fonction phallique. Nous sommes tous, ce que nous soyons là, avec les apparences de l'homme ou de la femme, nous sommes tous dans la fonction phallique. Et chacun d'entre nous, qu'il soit du côté homme ou du côté femme au sens habituel, peut, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, il faut bien qu'il y ait un trou dans le sens pour que ça arrive, ça ne peut pas arriver comme ça, chacun d'entre nous peut être en direction de ce qui n'est pas tout dans la fonction phallique, c'est-à-dire de ce que Lacan va appeler le pas tout, c'est-à-dire la dimension du féminin. Et c'est par là qu'est passé quelque chose de cette jouissance de l'autre. Il ne faut pas trop que j'explique, parce que plus je vais expliquer ça, plus je vais aller au sens inverse de ce que j'essaie de dire. Il y a quelque chose que je ne sais pas comment dire, parce que c'est même pas transmettre. Il y a quelque chose qui transcende l'humain, donc chacun d'entre nous, c'est le fait qu'étant un être parlant, c'est ça l'important, qu'étant un être parlant, il peut arriver. Si ce qui ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire, ne cesse pas, nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire cesse, alors ce qui cessait de ne pas s'écrire pourra s'écrire, le contingent. Et ça, c'est la dimension du possible. Et la langue. La langue, notamment notre langue maternelle, la langue, hein, ce que je m'appelle la langue française, nous met on pourrait dire, les instruments, en quelque sorte. Il n'y a pas besoin de... Il suffit de prendre à la mesure de ça. Et vous voyez que dans ce tissage, justement, dans ce filage-là, que j'essaie de dire entre le ne cesse pas, cesse de ne pas, etc., dans cette négation qui passe comme ça, qui se balade, c'est ça le travail.